Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Le jeune homme que nous avons accompagné chez le sage dans le livre « Parle-moi d'amour » de Michel Coast aux éditions Ouvrières, ce jeune homme, nous le suivons depuis 8 épisodes déjà, et maintenant plus à même de comprendre ce qu'est l'amour vrai, le reflet de l'amour de Dieu qui se donne. Ce que le sage avait vécu, d'autres le vivaient, mais eux le vivaient mal. Qui pouvait comme lui ne pas maudire l'inhumaine solitude dominée, leur rancœur, assumer leur souffrance? Beaucoup de ces naufragés de l'amour venaient trouver le sage. Et celui-ci leur parlait. Comment pouvait-il les aider à porter leur fardeau? Je le lui demandais. Amis, que dites-vous aux hommes qui viennent vous confier l'épreuve de leur foyer désuni? Rien, mon petit. Je les écoute. Et quand ils ont fini de parler, je les écoute encore. Ils parlent à nouveau, longuement. Et quand enfin ils se taisent, je leur dis ce que tu m'as dit. Comme vous devez souffrir. Et puis je me tais. Et je prie en offrant. Mais eux, que vous disent-ils? Leurs mots sont multiples, car leur histoire est différente. Il dit « Mon cœur, s'il bat encore, ne vibre plus pour elle, et mon corps depuis longtemps n'a plus faim de son corps. » Elle dit « Il n'est pas celui dont je rêvais. Il se cachait, se déguisait. Mes lèvres ne pressaient plus qu'un masque, et le masque est tombé. » Il dit « Je ne pouvais plus supporter ses silences, ses froideurs et ses reproches. J'ai trouvé un cœur accueillant et des mots de tendresse dans une bouche qui jamais ne se dérobe. » Elle dit, il sortait visiter d'autres jardins et cueillir d'autres fleurs. Les miennes se sont fanées et il ne les arrosait plus et de rage j'ai piétiné les pétales tombés. Il dit, elle emplissait ma tête du bruit de ses paroles et ne pouvait entendre le murmure des miennes. Et mes mots enterrés, lave incandescente au volcan de mon cœur, s'échappaient brusquement, incendiant les débris de notre amour en miettes. Elle dit « Nos enfants ne pouvaient plus supporter nos disputes. Ils campaient sous l'orage et même réfugiés sous la tente que pour eux nous avions péniblement dressée, les éclairs les déchiraient à la jointure de leur cœur. » Il dit « Elle me serrait si fort entre ses bras avides que j'étouffais en silence sans pouvoir me débattre. Quand enfin de ces liens je me suis libérée, au loin j'ai fui en quête d'un espace où pouvoir respirer. » Elle dit, les mots sont demeurés dans sa tête enfermée, pierres dures entassées s'élevant comme un mur, et le mur était trop haut que nous pouvions franchir. Il dit, l'habitude entre nous a élu domicile, brouillard sans visage qui cache les sourires et tue lentement la saveur des baisers. Nous avons vieilli sans nous voir. Un jour, nous ne nous sommes plus reconnus. » Elle dit, « Il me voulait à lui, je le voulais à moi. Et pour nous saisir, sans cesse nous nous battions. Mais le combat fini, en nos mains étonnées, il ne restait de l'autre qu'un vêtement déchiré. » Ils disent, « Pourquoi lutter encore? C'était le ciel hier. Aujourd'hui, c'est l'enfer, car le ciel est amour et l'enfer son absence. Nous ne voulons pas l'enfer. Nous le croyons sans issue. » Ce sont ces mots-là, et bien d'autres encore, que je recueille en silence au calice de mon cœur. Pauvres mots lourds de vie blessée qui saignent en franchissant les rives de leurs lèvres meurtries. Et certains soirs, ma coupe est débordante quand je l'offre au Seigneur. Mais vous, amis, que leur dites-vous quand enfin vous parlez? Je dis, ami très cher. L'un de vous est parti, l'autre pleure et maudit en murmurant tout bas « Je t'aime encore ». Ou tous les deux, sourire de pacotille aux lèvres, masque de carnaval sur une plaie cachée. Vous avez d'un commun accord et sous la bénédiction des lois éteint les dernières braises du foyer et à jamais fermé la porte sur votre amour en cendres. Mais que vous pleuriez, que vous souriez ou que vous vous insultiez, quels que soient vos efforts pour reconstruire ailleurs la maison du bonheur et dans un foyer nouveau, tenter de rallumer un feu. Amis, pauvres amis, je vous le dis, vous ne pouvez vous démarier. Vous pouvez déchirer vos photos et détruire vos cadeaux. Vous pouvez piétiner vos souvenirs heureux et enterrer sous le poids des jours malheureux, peut-être essayer de partager ce qui était à deux. Mais qui peut redonner à l'autre la vie reçue de lui? Elle coule dans vos veines sans mêler à jamais, bien au-delà de la peau jadis follement caressée, jusqu'en la chair du cœur aux vaisseaux irrigués. Vous ne pouvez vous démarier. Vous avez noué en votre enfant les fils de votre vie et nul jamais n'a pu dénouer ce nœud sacré. Car ce nœud est vos deux vies à jamais réunies en une vie nouvelle. Et quand vous embrassez le visage de l'enfant, ce sont vos visages que vous baisez en même temps que le sien. Vous ne pouvez vous démarier. Vous pouvez accuser l'autre, la société ou le destin. Vous pouvez maudire l'Église et le Dieu Tout-Puissant, mais sa puissance ne peut rien contre votre liberté. Car si librement vous lui avez demandé de s'engager avec vous, quand vous vous engagiez, il demeure fidèle et il ne peut vous démarier. « C'est trop dur !» m'écriai-je. T'ai-je dit que c'était facile d'être homme libre et responsable? Mais l'homme est faible, il a droit à l'erreur. Il est faible, c'est vrai, et nul ne peut lui reprocher ses faiblesses, car nul ne peut mesurer l'amour vivant au cœur de l'homme et sa responsabilité dans un amour gâché. Mais nul ne peut lui dire qu'il peut reprendre la vie qu'il a offerte à un autre. Elle est devenue lui. Je te le répète, ceux qui se sont librement donné leur vie sont époux jusque dans l'éternité. Une note. Sur Terre, le premier moyen de communication et d'union entre les époux, c'est le corps. Par la parole, les gestes de tendresse et l'étreinte. Mais quand deux corps se sont régulièrement unis, on ne peut plus les désunir au profit d'une autre union. Un corps, en effet, ne peut pas se partager. C'est une richesse et une limite. Cette limite prend fin avec la mort d'un des conjoints. C'est pourquoi l'Église remarie les veufs qui le demandent. Après la mort, la vie de ressuscité sera tout autre. Notre corps sera transformé, spiritualisé. Il tiendra sa place dans la relation des époux, mais cette place, elle aussi, sera tout autre, dégagée des limites de la matière. Voir dans la Bible, Luc, chapitre 20, 27, verset 36, 1 Corinthiens, chapitre 7, 39 à 40, et 15, 35 à 49, ainsi que dans les Évangiles, Matthieu 19, versets 1 à 9. J'osais protester encore. Si c'est ainsi que vous vous adressez à ceux qui viennent vers vous, qu'étant quelques mots d'espoir, je doute fort que ceux-ci repartent apaisés. Si par faiblesse je renonçais à leur parler ainsi, je ne les respecterai pas et ne les aimerai pas. mais j'ai beaucoup d'autres choses encore à leur dire. Et ils reviennent pour les entendre ? Oui, comme le malade revient vers le médecin qui dit la vérité. Pour moi, aujourd'hui, je ne voulais pas écouter davantage. J'étais trop profondément troublée. Certes, j'étais fière de l'homme et de sa liberté. Combien de fois ne l'avais-je pas réclamé pour moi ? Mais je connaissais mes fautes et celles des hommes autour de moi. Ce gâchis monstrueux que nous accumulions, incapables que nous étions de bien gérer cette merveilleuse liberté si âprement défendue. Comme beaucoup, je voulais un Dieu qui me laisse entièrement libre de décider et d'orienter ma vie. Mais je voulais que ce même Dieu soit un Dieu bon papa, qui au besoin annule mes erreurs et bénisse indéfiniment mes nouvelles décisions. Il ne le pouvait pas. L'homme, alors, n'avait donc qu'un seul choix lorsqu'il décidait de fonder un foyer. Renoncer à être libre ou accepter jusqu'au bout les risques de cette liberté. Cette fois, je comprenais, mais je n'admettais pas. Je voulais être homme et libre, mais j'étais effrayée. Je n'osais pas le dire au sage. Il me fallait encore longuement réfléchir. Chapitre 30. Je l'ai dit, je connaissais beaucoup de couples désunis. Autour de moi, leur nombre augmentait à tel point que je me demandais si réussir aujourd'hui son foyer n'était pas une exceptionnelle prouesse. Certes, je m'expliquais de mieux en mieux l'insistance du sage à réclamer pour les jeunes une sérieuse préparation. Qui pouvait aimer sans savoir qu'est-ce qu'aimer et sans apprendre à aimer? J'admirais également de plus en plus la grandeur des hommes appelés à s'engager librement pour une vie entière. Et je commençais à m'émerveiller de l'infini respect de Dieu devant leurs décisions. Lui qui acceptait de les sceller de son amour s'il le lui demandait. Mais il restait ces nombreux échecs que j'observais et leurs douloureuses conséquences. Le sage m'avait dit que si l'homme le voulait depuis la croix de Jésus-Christ, il n'y avait jamais plus d'échec total. Je le souhaitais de toutes mes forces, mais ne voyais pas comment, puisque mon ami disait également que l'homme ne pouvait se démarier pour tenter de se marier une nouvelle fois. À nouveau, je désirais qu'il m'éclaire. L'amour est comme grain de blé, me dit d'abord le sage, dans le froid, dans la nuit, enterré, oublié, aux yeux des vivants. Quelquefois, il a semblé mourir. Mais cette mort est fausse qui annonce la vie, si le grain ne cesse d'être arrosé et chauffé au soleil. Les saisons de l'amour sont saisons de la vie. Certains hivers sont doux à ceux qui s'en préservent, à d'autres ils sont cruels, quand tombent une à une les folles illusions et souffle le vent glacial des désillusions. Des printemps sont joyeux, faites de fleurs et de fruits qui s'annoncent, mais d'autres sont troublants, saveurs enivrantes pour les cœurs affolés. Les étés sont moissons pour ceux qui ont longuement labouré et dans la confiance semé, mais aussi quelquefois flammes allumées aux amours de midi qui dessèchent les âmes et incendient les corps à la sève brûlante. Jardiniers de l'amour, sachez que l'amour se cultive et que beaucoup sont vivants que l'on croyait mourants. Mais certains hommes sont ignorants, dis-je. Ils ne savent cultiver et leur amour anémié ne pourra pas survivre. Il est des médecins du cœur, mon petit, amis très sûrs, hommes de Dieu, qui peuvent t'aider à soigner les amours malades. Cela, je peux le comprendre et je le comprenais. observant mes parents, combien de fois n'avais-je pas pensé qu'ils auraient pu éviter bien des heurts et des souffrances si quelqu'un les avait aidés à dépasser leurs multiples incompréhensions et leur permettre de s'épouser enfin tels qu'ils étaient et non tels qu'ils voulaient l'un et l'autre qu'ils soient. Mais pour beaucoup d'époux, il était trop tard. Ils avaient enterré l'amour qu'ils croyaient mort et sur la terre piétinée, tenté d'en faire pousser un nouveau. Mais pouvaient-ils y parvenir si Dieu les rejetait? Quand je le dis au sage, il se dressa subitement violent. « Tais-toi, me dit-il, ce n'est jamais Dieu qui nous rejette, c'est nous qui nous éloignons de lui. » Que doivent-ils faire alors, les amants désunis qui ont choisi un nouveau compagnon, une nouvelle compagne? Qu'ils reconnaissent d'abord leur faiblesse et puis qu'ils prient pour obtenir la lumière. Comment? Comme des enfants qui souffrent. Ô mon Dieu, comprends-moi. Toi qui comprends si bien tes fils qui sont fidèles comme tes fils pécheurs. Je n'ai pu vivre solitaire, abandonné, perdu. Mon cœur avait trop froid et mon corps trop faim. Comment pouvais-je seul en la vie naviguer sur mer déchaînée, mât cassé et voile déchirée, sans chercher quelqu'un pour m'aider à réparer ma barque et continuer la traversée? Comment pouvais-je, femme, nourrir seule des enfants mutilés quand blessé, exsangue, vide du sang d'amour de mon Saint-Hari, il réclamait le lait? Je n'ai point refusé, mon Dieu, un peu d'amour offert et quelques brins de bonheur au creux de mes mains vides. J'ai tenté de tisser un nouveau nid d'accueil pour remplacer le nid détruit et je n'ose bouger sur mon amour tout neuf de peur qu'il ne s'envole comme un oiseau craintif. Malgré mes blessures et malgré mon fardeau, je suis heureux, je le crois, arc-en-ciel timide dans mon ciel de nuages. Ô mon Dieu, je t'en supplie, ne ravis pas ma joie. Mais j'ai peur et je doute, car on me dit que tu ne peux bénir ce foyer d'aujourd'hui. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Est-ce mal de tenter d'être heureux quand on a tant souffert, ou seulement gâcher un bonheur éphémère? Aime-moi, mon Dieu, ne m'abandonne pas, car de toi aussi j'ai besoin d'être aimé. Et puisque aujourd'hui je tente d'aimer mieux, puis-je t'offrir au moins ces miettes d'amour nouveau que je crois être amour? Connaissez-vous la réponse de Dieu? Je l'ai longuement attendu, mon petit. Les hommes, trop souvent, se découragent devant ce qu'ils croient être son silence. Ils se trompent. Je sais maintenant que Dieu parle, mais que nous ne l'entendons pas. J'ai écouté, purifiant mon cœur, et j'ai peu à peu perçu le murmure de sa voix. Alors, à ceux qui se présentaient de plus en plus nombreux aux portes de ma maison, aux portes de mon cœur, j'osais enfin transmettre la réponse que j'avais cru entendre. « Je crois, mon petit, que Dieu parlait ainsi. » Mon enfant, je t'ai toujours aimé et je t'aime toujours. Un vrai père ne rejette jamais son fils, même si, fils prodigue, il s'éloigne de lui. Tu n'as pu vivre seul, je connais ta faiblesse. Et c'est toi qui décides. Tu es libre, mon enfant, par amour pour toi, je l'ai voulu ainsi. Mais il est vrai que je ne puis dénouer le lien qu'ensemble, vous et moi, nous avions noué. Mon Église, elle-même, n'y peut rien. Une note. L'Église ne peut rompre le lien du mariage. Il est de Dieu. Elle peut seulement, quelquefois, reconnaître sa nullité. Il n'y a pas eu mariage. Marc, chapitre 10, les versets 6 à 9. Mon Église, elle-même, n'y peut rien. Car je suis l'amour, et l'amour est fidèle. Et de moi, vous ne pouvez obtenir que je sois infidèle. Enfant très cher, tu souffres. Je comprends ta souffrance. J'accueille ta prière et même la violence de tes mots. Car qui peut les égrener doucement quand le cœur saigne et le corps se déchire? Mais mon enfant, sais-tu que ta souffrance est mienne? Ma croix n'est pas d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Elle sera demain, car ma passion est plus que coups, épines et clous. Elle est souffrance infinie de l'amour bafoué. Les hommes n'ont pas fini de me clouer au bois, les bras écartelés jusqu'à la fin des temps. Mais au bout de ces longs bras, mes deux mains grandes ouvertes, je vous porte chacun, chers enfants séparés, et mon cœur est au centre qui vous unit toujours, car mon cœur est vivant et continue d'aimer. Fais confiance, mon enfant, et viens vers moi sans crainte. Nombreuses sont les routes pour me joindre et moi pour le rejoindre. Accepte la souffrance de la déchirure, et puisque comme mon Église éclatée, tu ne peux témoigner de l'unité gardée, que la douleur de la désunion témoigne de la grandeur de l'union. Mais surtout, enfant très cher, reconnais tes erreurs, tes faiblesses, demande pardon et pardonne à qui tu dois pardonner. Car l'amour ne peut revivre en un cœur qui se ferme. Alors, je te le dis, donne-moi sans hésiter ces balbutiements de ton amour nouveau. Sur ma croix, je les accueillerai et m'occuperai du reste. Je crois que ce jour-là, je compris l'essentiel. De nos désunions, Dieu souffre en Jésus crucifié. Mais si nous le voulons, nous sauve en nous aimant toujours. Chapitre 31. Comme d'habitude, je m'étais assis en face de mon ami. Je savais qu'il avait besoin de me regarder et moi, j'avais besoin de son regard. J'allais parler, mais l'enfant est entré. Il embrassa le sage, se promena dans la pièce, toucha quelques objets, tira un à un les deux tiroirs du bureau où étaient rangés crayons, gommes et mille petites choses qui sont abandonnées là parce qu'on ne sait plus où les mettre. Il inspectait silencieusement ce qui était pour lui, je le devinais, une caverne au trésor. Le sage l'observait, amusé et heureux. Visiblement, l'enfant se sentait chez lui et il s'y trouvait bien. J'avais dans ma poche quelques bonbons et je lui en offris un. Il me regarda, surpris. Il s'en empara vivement, me remercia d'un mot et sortit en croquant son butin. Le sage, maintenant, me regardait songeur et je crus le déceler un peu triste. C'est de ton attention et de ton affection dont l'enfant avait besoin, me dit-il, et non d'abord de ton bonbon. Mais il en avait envie, dis-je. Je l'ai vu quand je le lui ai donné tendu. Il en avait envie, mais pour lui, était-il nécessaire? Son envie satisfaite, il renaîtra l'instant d'après. Et l'enfant reviendra pour obtenir de toi les bonbons qu'il attend. Ainsi, beaucoup de grandes personnes donnent aux enfants l'accessoire, mais les privent de l'essentiel. C'est parce qu'ils les aiment qu'ils veulent leur faire plaisir. Souvent, hélas, parce qu'ils cherchent à se faire aimer, peut-être même à se faire pardonner. Ce ne sont pas les bonbons, mais l'amour qui fait grandir les enfants. Beaucoup sont sous-développés ou mal développés parce que d'une façon ou d'une autre, mal aimés. Ainsi, l'enfant enseveli, étouffé sous ses jouets et qui n'a plus de désir puisque tous ses désirs sont satisfaits avant même qu'ils n'apparaissent et ne grandissent. L'enfant unique dont les parents lui refusent le frère ou la sœur qu'il désire parce qu'il préfère une maison, les sports d'hiver ou la voiture. L'enfant condamné au restaurant qui sur sa chaise s'impatiente devant son assiette trop pleine tandis que ses parents n'en finissent pas de manger, de boire et de parler à moins qu'eux aussi n'en finissent pas de s'ennuyer. L'enfant captif écœuré de kilomètres et qui s'énerve à l'arrière de la voiture, maison roulante pour petits d'hommes qui ne savent plus marcher. L'enfant abandonné le matin parce que ses parents vont travailler pour lui, ou abandonné le soir parce que généreux, il s'occupe du monde entier et des enfants des autres. L'enfant abreuvé de bruit, nourri d'images et qu'on laisse tard devant la vitre de la télévision, fasciné comme papillon de nuit, se heurtant sans fin aux carreaux de lumière. L'enfant animal savant qui doit courir de l'école de chaque jour à l'école de musique et à l'école de sport et qui n'a plus le temps de jouer, de flâner, de rêver. L'enfant qu'on veut déjà enrôler pour de grandes causes et dont même le jeu est un jeu orienté et l'enfant qui joue toujours seul et s'invente des partenaires pour des parties de rêve. L'enfant qui n'a pas le droit de se salir, de bouger, de parler, ou l'enfant qui a le droit de tout faire parce qu'il est trésor unique et qu'il faut toujours satisfaire pour tenter de le garder. L'enfant aux parents édredons sur lesquels il peut frapper et des mots et des poings ou parents en béton sur lesquels il se heurte et se blesse sans obtenir de réponse. L'enfant qui ne sait pas pourquoi il est là, pourquoi il vit, parce que ses parents ne le savent pas eux-mêmes, ou parce qu'ils ont eu par accident, et qu'après avoir hésité, ils ont décidé de le laisser vivre, ou parce qu'un jour, ils en ont eu envie, parce qu'on se marie pour avoir un enfant, parce que c'est l'habitude, parce que c'est tellement gentil un bébé, parce que ça distrait et ça meuble les solitudes, parce que ça peut consolider un couple désuni, parce que c'est une garantie pour ne pas vieillir et mourir seul. Au fur et à mesure qu'il parlait, le sage s'était emporté. Redressé de toute sa taille, il lançait les mots avec force, comme s'il voulait atteindre de lointains adversaires. En son regard, une flamme s'était allumée. C'était le feu de la colère. « Vous êtes très sévère, » dis-je. « Pardonne-moi, mon petit, » murmura-t-il, redevenu subitement calme. « C'est vrai, Je le suis. Mais je ne peux supporter de voir des enfants abîmés. C'est tellement beau, c'est tellement grand, un enfant. Enfant, sang mêlé, vie mêlée, cœur mêlé, homme et femme à jamais unis, soudés, noués, en leur amour fait chair. Enfant, chef-d'œuvre inimitable, trésor inestimable, nouvelle étoile allumée au ciel de la terre parmi les milliards et les milliards d'étoiles nécessaires. Toi, personne unique qui jamais ne parut et ne paraîtra plus. Enfant, chéri de l'homme, béni de Dieu, désir éternel du Père qui prend corps quand en l'amour il rencontre, aux merveilles, le libre désir de l'homme. Enfant, enfant de l'homme, enfant de Dieu, membre d'un corps inachevé, mais sans toi amputé, corps humanité, corps de Christ, qui depuis l'aube des temps grandit en terre pour s'élever jusqu'en ciel. Comment Dieu a-t-il pu, incompréhensible, folie d'amour, à l'homme remettre ce pouvoir en son corps la sève, en son cœur le désir, qu'il puisse avec lui te créer vie nouvelle, source neuve jaillit sur la terre des hommes, aurore d'un fleuve immense, appelé à couler jusqu'en éternité. Parents, le saviez-vous? Lorsque vous-même riche de toute la vie reçue, vie devenue vôtre, parce que vie donnée, vous n'avez pas voulu, triste parasite, vivre sur ce trésor gratuitement offert, sans vouloir à votre tour gratuitement le transmettre. Lorsque grandi d'amour, corps et âme, à un autre vous vous êtes donné, accueillant de cet autre son unique cadeau. Lorsque, à pleine gorge de cette vie offerte, vous vous abreuviez, refusant qu'elle demeure en vous deux, jalousement conservée. Lorsque la sève en vos veines, frémissante, bouillonnante, cherchait son chemin, en désirant la fleur et réclamant son fruit, lorsque vos corps en fait palpitant de plaisir dans le lit de la vie, vos cœurs à cette sève avaient ouvert grande la route de l'enfant. Parents, le saviez-vous? Comblant alors l'attente amoureuse de votre Père qui est aux cieux, vous étiez enveloppés de sa joie infinie. Mais n'oubliez jamais, parents, que cette vie, si vous l'avez authentiquement donnée, vous ne pourrez jamais à l'enfant la réclamer. Elle est pour lui, elle est à lui, votre vie, devenue autre vie, lui à jamais. Quand vous aurez fini de l'aider à naître et à grandir, du sein de la famille, un jour il s'envolera, comme un jour il sortit du sein de sa maman. Et vos cœurs saigneront comme a saigné son corps. Mais la joie paraîtra, la seule qui vous revient, merveilleuse réussite de l'amour. Joie que cette vie donnée, il la donne à son tour. Vois-tu, mon petit, dit le sage en me raccompagnant, pour de vrais parents, authentiquement amoureux, avoir des enfants est un bonheur immense, aux couleurs d'infini, car l'amour est de Dieu et Dieu attend son fruit. Mais le fruit pour naître a déchiré la graine et de la fleur fait tomber les pétales. Donner la vie, c'est aussi accepter de souffrir en acceptant la joie. Chapitre 32. Je comprenais maintenant la grandeur, la beauté de l'enfant. Parallèlement, je mesurais la responsabilité de ceux qui le faisaient. J'ai dit précédemment combien, adolescent, j'avais été préoccupé de mon origine, me demandant si j'avais été accueilli avec joie ou comme un trouble fête. Qu'importe ce soir, j'étais heureux, ayant découvert, je le crois, l'essentiel. J'avais été désiré infiniment par Dieu. Maladroitement, je l'en remerciais, lui demandant de ne pas décevoir son amour infini. je me mis alors à rêver d'une fille enfin rencontrée et de l'enfant que nous ferions ensemble, l'ayant désiré comme Dieu le désirait. Le sage avait-il connu cette joie de la paternité? J'hésitais à le lui demander. Devant lui, la question pourtant vint toute simple et je ne devais pas le regretter. « Ami, avez-vous eu des enfants ?» lui demandai-je à brûle-pourpoint. « De ma chair, aucun, me dit-il. De mon cœur, beaucoup. Et cet enfant que vous semblez tant aimer est l'un de ceux-là ? Oui, celui-ci est l'enfant déchiré. Il rencontre son père quelquefois, et quelquefois sa mère, mais jamais il ne les voit ensemble. À la jointure de son cœur, le coin est ainsi enfoncé et la blessure saigne de l'amour brisé. J'essaye de compenser la vie qui se répand, mais en l'enfant, la plaie reste béante, même quand elle est cachée. Vous consolez l'enfant ? Non, je lui dis la vérité. Tu souffres, tu souffriras, mais tu peux réussir ta vie et sauver à jamais l'amour de tes parents. Enfants déchirés aux parents séparés, vous êtes carrefour de routes qui divergent, lieu de rencontre des cœurs dans la nuit, vous êtes les liens qui ne peuvent être dénoués, les chairs qui ne peuvent être désunies. Vous êtes votre père et votre mère qui en vous ne peuvent divorcer et leur amour qui survit tant que vous, vous vivez. Vous êtes, eux, à jamais épousés. Enfants abandonnés aux parents inconnus, vous êtes les visages de pères et de mères à vos yeux sans visage, fleurs nouvelles sans nom aux herbiers bien classés. Vous êtes vie jaillie de désirs sans bornes, mais comblant vous aussi les désirs de Dieu. Vous êtes ses enfants plus que d'autres encore, puisque cœur inhabité, disponible à son amour de père. Si vous le voulez, enfants abandonnés, le Père vous élèvera comme ses fils chéris, car la place en vous toute grande lui est faite, sans être disputée par des parents savants qui souvent pensent mieux faire que le Père de la vie. Enfants déchirés, enfants abandonnés, vivez ! Vivez de tout votre corps, de tout votre cœur, et si vous le pouvez, priez ainsi. Me voici devant toi, mon Dieu. Ô mon Père fidèle, riche de ma vie, maître de mon avenir, car cette vie est à moi, puisqu'elle me fut donnée ou bien abandonnée. Je l'accepte, et j'accepte la souffrance de mes branches cassées, même si de mon arbre j'ignore les racines, car le soleil de ton amour, Seigneur, brille pour tous. Il perce irrésistible les plus épais nuages, et mes fruits mûriront si je vis en plein jour hors des nuits de rancœur et l'ombre des regrets. Aide-moi, ô mon Dieu, à vivre et réussir ma vie pour que vivent mieux mes enfants de demain. Car si d'un père et d'une mère unis, je ne fus pleinement aimée de l'amour des parents, j'ai mesuré l'immense nécessité en sondant chaque jour la profondeur de ma blessure. Et je sais maintenant combien la souffrance est sévère, mais maîtresse savante, pour qui sait apprendre d'elle ses leçons infaillibles. Aide-moi, ô mon Dieu, à vivre et réussir ma vie, pour qu'en moi et par moi vivent mieux mes parents, puisqu'on m'a dit que je suis leur amour fait chair, même si cet amour ne fut que pauvre amour d'un instant. Aide-moi alors à grandir pour qu'eux aussi grandissent, à aimer pour qu'ils aiment, à donner ma vie pour que leur vie fleurisse, et mystérieusement, silencieusement, avec toi, ô mon Père, j'engendrerai mes parents, je leur donnerai la vie, je les élèverai et je les sauverai en sauvant leur amour. » Alors, l'enfant revint qui cherchait un bonbon. Le sage avait raison. Il n'en eut pas de moi, mais il eut un baiser et main dans la main, nous partîmes ensemble en partageant nos maux. Pour terminer cette lecture du jour, je reprends en bref un épisode. Le jeune homme a offert à l'enfant un bonbon, alors que l'enfant, entre le sage et le jeune, se sentait bien en regardant le local, les objets, et bien aussi avec les deux personnes présentes. C'est de ton attention et de ton affection que l'enfant avait besoin, et non d'abord de ton bonbon, dit le sage. Et il poursuit. Il en avait envie, mais pour lui, était-il nécessaire? Souvent, hélas, parce qu'il cherche, les parents entre autres, cherchent à se faire aimer, peut-être à se faire pardonner. Avec cette conclusion, ce ne sont pas les bonbons, mais l'amour qui fait grandir les enfants. Amis auditeurs, ces phrases m'ont interpellée. Quand nous nous entendons aujourd'hui sur les ondes ou à la télévision, tous les malaises de nos jeunes, est-ce que ce n'est pas une leçon pour nous tous? Beaucoup de choses ici nous ont été rappelées. À bientôt donc, avec Radio Alliance Plus, l'émission Je lis pour vous, 103.2 FM et DAB+, en direct radio ou podcast, n'hésitez pas à réécouter Le Sage. À bientôt pour la suite.